Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral Digne. Je suis heureuse d'accueillir mes deux invités, deux auteurs. Donc nous allons plus amplement faire connaissance. Jacques Beck, on a déjà reçu à Fréquence Mistral, mais c'est toujours un plaisir. Jacques Beck, ancien inspecteur de l'enseignement agricole, président de l'association valençolaise Les Poètes des Hautes-Terres, qui organise, on le rappelle, chaque année, le festival Poésie et Chansons Pays des Lavandes. Bonjour Jacques.
Bonjour Odile, bonjour.
Et puis vous êtes accompagné de Jean-Jacques Corre, professeur agrégé d'anglais et ancien directeur de la faculté des lettres de Toulon, président de l'association valençolaise d'animation culturelle qu'on appelle l'AVAC.
Ex-président.
Ex-président, ah ben voilà.
Il y a un moment où il faut passer le relais.
Le flambeau, ok. Oui. Tous les deux, vous êtes là puisque vous venez de publier un livre qui s'appelle « Si Valençol m'était compté », un livre original qui vous a valu déjà des honneurs puisque vous figurez sur le site, c'est ça, de la DLVA.
En bonne position.
En bonne position. Ça, c'est une belle récompense.
Derrière Jean Giono quand même, pas devant.
Ok. Donc, Si Valençol m'était compté, donc c'est un livre en 14 tableaux, un livre très original, où vous faites parler Obélix et Astérix au début. L'idée de...
C'est surtout Jean-Jacques qui les fait parler au début, là, puisqu'il y a... dire d'ailleurs que c'est lui qui a constitué l'essentiel des tableaux. Hein. Moi, je n'ai écrit que les tableaux, on va dire, de la période contemporaine. Mais oui, Si Valençol m'était compté, c'est pas Si Versailles m'était compté, mais voilà, ouais, c'est ouais. L'originalité, c'est une pièce de théâtre en 14 tableaux qui raconte l'histoire d'une petite ville. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'écrits de ce type. Et puis, c'est venu du travail que, au départ, d'abord de la connaissance que Jean Windsor. Hein,
exactement, hein, au départ, c'est ce que j'allais dire, effectivement.
Et
c'est
de fil en aiguille, on a travaillé comme ça.
Effectivement,
quoi.
C'est la conjonction de deux choses. Effectivement, j'étais ami de John Windsor, qui était l'historien officieux, plutôt qu'officiel, on ne peut pas parler d'historien officiel, mais disons l'archiviste plus exactement de la ville de Valençol, puisqu'il avait eu la possibilité d'accéder aux archives à Digne, effectivement, et puis il en restait quelques-unes aussi à Valençol. Et donc à partir de là, il a écrit donc, sur certains moments de l'histoire de Valençol. Il a écrit sur l'Église, il a écrit sur la société au XVIIIe siècle, il a écrit sur la Révolution, etc., etc. Donc, je connaissais donc John, je connaissais même mieux sa femme, puisqu'elle était collègue, elle était professeure aussi à l'université, mais à Aix. Et puis, à cette époque, comme Odile le disait tout à l'heure, j'étais encore président de l'AVAC, donc l'association valençolaise d'animation culturelle. Et il s'est trouvé que pendant mon mandat, on allait fêter les 40 ans de cette association. Et donc, nous avions décidé de marquer le coup. Et de mon côté, je m'étais dit, écoute, je vais peut-être faire un effort de faire quelque chose d'un petit peu différent, un petit peu original. Et donc, l'hiver précédent, le printemps qui était maintenant il y a plus de 2 ans et demi, j'ai écrit donc cette pièce. Effectivement, c'est une pièce qui a été jouée, là encore, grâce à l'AVAC, puisque nous avions un atelier théâtre. Et donc on avait éventuellement des acteurs et des actrices qui pouvaient intervenir dans cette production. Et nous avons fait aussi appel à une metteuse en scène qui nous a aidés. Je cherche son nom parce que son nom m'échappe souvent.
Alors,
c'est Marjorie Caillot, voilà. Hein, qui nous a aidés dans le montage de cette pièce et qui a d'ailleurs pas mal élagué dans le texte parce que effectivement c'est un pavé. Hein, il y a quand même 140 pages, donc c'est impossible de jouer tout ça. Donc, on a donc monté cette pièce qui a été jouée malheureusement une seule fois. Pendant ce festival des 40 ans, puisque le festival des 40 ans, il y avait diverses manifestations, des concerts, des choses comme ça. Et donc, ça a été une des soirées de ce festival. Voilà. Un petit peu la genèse de cette histoire.
Moi, je voudrais revenir un instant sur la figure de John Windsor, parce que je ne le connaissais pas plus que ça. Mm-hmm. Je savais depuis fort longtemps qu'il venait à Valençol. Mm-hmm. Mais moi, j'étais bien ailleurs. Et c'est en rentrant chez lui après son décès, et puis Jean-Jacques était un peu après, pas exécuteur testamentaire, mais en tout cas intellectuellement, c'était un petit peu le cas. La quantité de documents, le volume d'études qu'a pu réaliser ce professeur d'université sur Valensole, puisqu'il était à l'université de Sheffield, et ça m'a fait penser, il y a un équivalent, c'est Montagne ou village occitan de Le Roy-la-Durie, puisque Le Roy-la-Durie, vous le savez sans doute, a travaillé toute sa vie. Son objet d'étude, c'était ce village occitan. Et on ne sait pas, ça se sait très peu, mais il faut le dire, à quel point John Windsor a pu utiliser Valensole comme objet d'étude pour faire ses cours de civilisation française à Sheffield. Et j'ai été estomaqué de voir la quantité d'études, de documents encore inutilisés, qu'on a pu récupérer nous, hein, avec l'autorisation de la famille, mais encore inutilisés et qui mériteraient sans doute un travail universitaire ultérieur.
Hein, c'est ça, on y travaille, effectivement. Nous sommes à la recherche éventuellement de doctorants qui seraient,
voilà,
qui
donc,
seraient intéressés par...
Le message est passé.
Le message est passé, voilà.
Alors, une pièce jouée qu'une seule fois, évidemment, ça va en appeler d'autres représentations. Combien de comédiens pour...
Alors, on avait pas loin d'une vingtaine de comédiens.
Pas loin d'une vingtaine, c'était une même compagnie.
Alors, comme je disais, c'était l'atelier théâtre.
Oui. Hein.
Donc, exceptionnellement, cette année-là, nous avions fait quelques... Puisque c'est un atelier théâtre dans le cadre de l'école de musique de Valensole, de l'AVAC, hein, puisque l'AVAC, c'était essentiellement une école de musique, mais il y avait aussi d'autres activités comme le théâtre. Et donc, on avait donc recruté exprès pour monter cette pièce. D'habitude, l'atelier théâtre fonctionnait plutôt avec des enfants, avec des jeunes, des adolescents. Donc là, on a recruté des adultes. Et donc, c'était en fait des acteurs tout à fait néophytes. Hein. Moi, le premier d'ailleurs, parce que j'ai même participé à l'aventure. Après l'écriture, j'ai participé aussi à la représentation. Voilà. Donc oui, c'était un gros travail. Et j'avoue que j'étais assez impressionné, à la fois par le travail de la metteuse en scène, mais aussi par la capacité d'apprentissage de ces acteurs débutants pour la plupart. D'ailleurs, je peux aussi les remercier et les féliciter. Et ce petit atelier théâtre qui s'est étoffé grâce à cette pièce a maintenant, disons, décidé de voler de ses propres ailes et a créé sa propre association et continue sur Valensole. Et donc, tous les ans, donne maintenant, depuis 2 ans, donne une pièce, souvent des pièces de boulevard, mais c'est quelque chose qui est né pendant cette période-là.
Ça crée des vocations.
Et voilà, donc ça a suscité des vocations, comme c'est, dit Jacques.
C'est l'association Valensole, avec qui on travaille maintenant, et qui sera aussi partie prenante de la journée
du patrimoine
le 21 septembre.
Voilà.
Si Valensole m'était compté donc par Jean-Jacques Corr et Jacques Beck, il vous a fallu beaucoup de temps pour l'écriture ?
Disons, j'ai commencé l'été précédent, je travaillais sur tout l'hiver.
Ça fait un
et
an.
Et effectivement, il m'a fallu à peu près entre, presque 10 mois à peu près pour l'écrire, oui. J'ai un petit peu, pataugé pour dire les choses de manière un petit peu réaliste au début, parce que, mon idée, c'est, je suis parti. Avec quoi vais-je commencer ? Donc, j'ai commencé à penser effectivement à Saint-Mailleul, etc. Et puis, écrire, c'est pas non plus... Je n'écris pas de livres en général. Hein. C'est pas quelque chose auquel je suis habitué. Mais j'écris un blog. Mais ça n'a rien à voir. J'ai pataugé, comme je disais. J'étais pas satisfait, quoi. Est-ce que je vais rendre... Même si je pensais romancer la chose à partir de choses réelles, écrites, hein, il me manquait quelque chose. Et en fait, l'étincelle est venue un jour. Je me suis dit, mais pourquoi ne ferais-je pas appel à des guides merveilleux que pourraient être les extraterrestres qui sont apparus à Valensole en 1965, comme le connaissent pas mal de gens dans la région. Je me suis dit, peut-être qu'on pourrait utiliser ces personnages comme des guides. Et effectivement, ils apparaissent avant 1965, puisqu'ils apparaissent dès la première scène, la scène où, comme Odile l'a dit tout à l'heure, Astérix et Obélix, que je n'appelle pas Astérix et Obélix d'ailleurs, pour des raisons évidentes, hein, dans la première scène où Astérix et Obélix viennent évidemment aider les Valensolais qui doivent se battre contre les Romains qui, bien sûr, ont investi la région et viennent se prélasser dans les thermes de Gréoux. Et donc, les extraterrestres apparaissent, Astérix et Obélix. Félix au moment où ils arrivent à Valensole pour aider donc ces femmes, les Valensolais, quoi. Voilà. Donc à partir de là, ça a marché. Donc le lien, bah, ça s'est fait. Et donc et là, divers moments de l'histoire apparaissent effectivement les extraterrestres lors de rencontres un petit peu inopinées. Bon, c'est un petit peu tiré. C'est un petit peu des ficelles quand même, hein. Mais enfin bon.
Moi, pour ce qui me concerne, j'ai surtout travaillé sur la période contemporaine, ouais. En puisant dans le travail que j'avais fait pour mes deux premiers romans, hein, le siècle de Joseph et puis le précédent, Vous étiez paysan. Et l'idée que justement, par exemple, je pense à un tableau, Marceau Arnaud, donc ce malheureux agriculteur qui est mort le 20 août 1914, puisse en mai rencontrer un extraterrestre sur le chemin qui mène à sa vigne et lui expliquait qu'il était en train d'aller un peu débourrer la vigne, etc. Partant de Mistral, puisqu'en plus j'avais travaillé aussi sur la météo de cette année-là. Bon, voilà, c'est un côté, je dirais, presque jouissif, quoi. Ça dit tout de la pièce en même temps, parce que à travers les personnages des extraterrestres, ben, y a ce continuum, et puis de faire revivre des personnages en les faisant parler à quelqu'un, un interlocuteur en l'occurrence, qui témoigne qu'effectivement, M. Arnaud, le 16 août, ou le 16 mai ou le 17 mai, je ne sais pas quand, allait bien à sa vigne. Vous voyez, il y a un côté, voilà, c'est assez sympa. C'est très sympa. Même.
C'était très sympa.
Donc il y a beaucoup d'humour. Et ça permet de connaître l'histoire de Valensole.
C'est un peu ce qu'on a pensé, c'est un peu ce qu'on voulait, faire connaître l'histoire de Valensole de façon agréable, quoi, finalement.
Un petit peu ludique, un petit peu agréable, et puis. Et j'avoue que les actrices en particulier, ou les acteurs qui jouaient les extraterrestres, s'en sont donnés à cœur joué. Hein. Ils ont joué le rôle à fond, hein, parce qu'effectivement, c'était l'objet de fou rire, etc. Donc. Voilà.
Oh bah, moi, je pense à une scène que tu as écrite, par exemple, celle du problème des chenilles. Hein,
oui, l'abjuration des chenilles.
L'abjuration des chenilles. Oui. Donc, fait historique réel, mais qui ne peut être traité qu'avec humour, avec le recul. Quoi, c'est évident. Quoi.
Oui, parce que l'histoire de Valensole, elle peut être quand même assez lourde. Hein, c'est une histoire faite de conflits, hein, pour resituer un petit peu, peut-être rapidement, le contexte. C'est le fait que Saint-Mailleul soit devenu, donc Saint-Mailleul, le fils donc du seigneur local au Xe siècle, Foulque, le fait qu'il soit devenu le quatrième abbé de Cluny a fait que c'est donc l'ordre de Cluny, les bénédictins, qui sont venus finalement s'imposer à Valensole, puisqu'ils avaient hérité en fait de toutes les terres des Foulques. Des terres, des châteaux, etc. Donc toute la région, toute cette grande commune qui est Valensole, Le Bar, etc., Rousset, tout ça, ça appartenait donc à cette famille. Donc les bénédictins en ont hérité. Donc les bénédictins sont venus s'installer en haut du village et ont commandé un petit peu le village pendant 800 ans, jusqu'à la Révolution. Hein. Et même le curé n'avait pas son mot à dire, ou très peu. Hein.
Avec des frictions.
Il y avait beaucoup de frictions, et c'est quelque chose qui est très agréable, enfin agréable pour la personne qui étudie ça. C'est vrai que là, il y a une source, disons, inépuisable d'écriture et de scènes qui sont tout à fait intéressantes, hein, puisque ça aborde des problèmes.
Si je peux permettre, il faut prendre en compte la présence d'un évêque à Ries, et donc exactement. Avec toutes les prérogatives qu'un évêque pouvait avoir. De proximité, à proximité, en plus, pouvait avoir. Ouais. Évidemment, il y avait des tensions, des enjeux de pouvoir évidents, quoi. C'est ce qu'on ressent. Hein.
Il y a eu, donc, juste pour terminer là-dessus, effectivement, dès 1025, il y avait l'évêque de Ries avait abdiqué un petit peu tous ses pouvoirs et avait remis aux bénédictins la possibilité de percevoir la dîme, hein, qui était quand même la façon, hein, la seule façon qu'avait un curé de vivre, c'était effectivement la dîme. Il percevait la dîme, vous savez ce que c'est que la dîme, c'est-à-dire le dixième de son revenu. Donc c'était les moines qui percevaient ça. Donc le curé, le pauvre, il n'a pas grand-chose pour vivre. Hein, donc il a eu une vie très très difficile. Hein. Voilà, jusqu'à la Révolution. Voilà.
Comment sont divisés les tableaux, 14 tableaux, c'est-à-dire
Alors bon,
c'est dans le temps,
c'est dans le temps, c'est chronologique.
Dans le temps, chronologique.
Bon, il y a des moments forts. Hein. Bien sûr, bon, l'arrivée de Boufix et Roumix, donc c'est un petit peu la découverte de Valensole. Valensole, bien qu'on n'en connaisse pas grand-chose hein, sur la présence romaine. Ensuite, on passe à Saint-Mailleul, donc on saute déjà presque 9 siècles. Saint-Mailleul au 10e siècle. Et puis après, eh ben, on va, disons, pendant les années, pendant le Moyen-Âge, ce qui a surtout marqué le Moyen-Âge à Valensole, bien sûr, c'était la présence des bénédictins, tous ces conflits, etc., mais aussi les épidémies, et en particulier l'épidémie de peste, hein, que l'on connaît bien à Digne également, hein, et qui a d'ailleurs été beaucoup plus... d'ailleurs, c'est une des choses qui surprend, elle a été beaucoup plus mortelle, disons, à Digne et dans d'autres villages qu'à Valensole. Valensole avait la chance peut-être d'être un village fortifié, qu'il était facile de défendre, et d'ailleurs, c'est un parallèle que j'ai fait, j'ai utilisé un petit peu la situation, puisque c'était l'époque du Covid, j'ai un petit peu fait des allusions dans la scène que j'ai écrite justement sur cet épisode de peste. C'est une petite jeune fille qui rencontre les extraterrestres et donc pose des questions sur la peste. Ce sont les extraterrestres qui lui répondent et donc il y a donc des allusions bien sûr à la situation du Covid, etc., etc. Bon, il y a des termes qui sont particuliers, hein, qui sont spécifiques à cette époque-là, en particulier les termes de parfumée, par exemple, ce qui donne lieu à une espèce de petit jeu de mots, puisque la jeune fille, quand elle apprend qu'à l'époque de la peste, on parfumait pour évidemment désinfecter, puisque c'était le terme qu'on utilisait, elle dit « Oh ben ça a dû leur coûter drôlement cher, hein, parce que moi, j'ai acheté du parfum La vie est belle à ma maman, ben ça m'a coûté vraiment un bras. Hein. » Voilà, on voyait ce genre de plaisanterie un petit peu facile, mais bon, c'est le genre de choses qui permet un petit peu d'alléger un petit peu la chose.
Jacques Beck, vous organisez depuis longtemps des visites du village.
Oui. Bon, par intérêt et puis un petit peu par nécessité. Il faut savoir que l'association Mémoire Vivante, donc qui est dirigée par Maurice Chassepoul, qui est très bien connu dans la région, hein, organise depuis quelques années, à la suite d'ailleurs de John Windsor qui avait commencé à faire ce travail-là, des visites historiques de Valensole.
Oui, oui. J'en ai suivi une, moi, voilà, avec John.
Avec finalité de d'identifier les points intéressants et de remonter ainsi l'histoire. Bon. Maurice, bon, il, comme tout le monde, il vieillit
Maurice
un petit peu.
Maurice Chassepoul, oui.
Et il m'avait demandé... si je pouvais l'aider à parfois prendre en charge des groupes pour faire ces visites. Donc moi, la première démarche, c'est du coup de pénétrer, de vérifier, de préciser un petit peu les contenus historiques de ce qu'on pouvait faire, évidemment. Hein. Donc j'ai commencé à lire, alors que j'étais sur d'autres dimensions, d'autres réflexions. Et je me suis pris au jeu, je suis rentré comme ça dans l'histoire de Valensole. Et puis ensuite, ben, comme Jean-Jacques, lui parallèlement, on va dire, hein, avait cet intérêt, cette relation avec les Windsor, avec le couple, bon, on a fini par se rencontrer. Donc on a travaillé, en plus, la mairie a demandé si on pouvait faire une réflexion sur le nouveau circuit historique de Valensole. D'ailleurs, on a sorti un document qui vient de sortir, là, le dernier document sur la visite historique de Valensole, ben, prend en compte tout notre travail. Et voilà, on en est là, on a du coup un peu revisité, modernisé, approfondi les informations qu'on peut apporter sur tel ou tel point, la fontaine, la chapelle Saint-Mailleul, les fortifications, la juiverie. Il y a aussi une juiverie, une rue des Juifs ou une juiverie à Digne, hein. Il y en a dans pas mal de
notre personnage,
de village. Enfin, voilà,
on s'arrête évidemment devant la maison, l'ex-maison de Villeneuve, hein. Puisque Pierre-Charles Sylvestre de Villeneuve, l'amiral de Villeneuve, qui est un des fils de Valensole, enfin je dis un des fils puisque c'est un des hommes célèbres de Valensole, et qui est peu connu des étrangers, mais la famille de Villeneuve a quand même une grande importance dans l'histoire de Valensole.
C'était une grosse tête.
Voilà. Non seulement des grands propriétaires, effectivement, mais ils ont donné des consuls. Enfin, les consuls, c'était les maires et les adjoints. Ils ont donné des curés, ils ont donné même des prieurs, des prieurs bénédictins. Et ce Pierre-Charles Sylvestre, qui était donc l'amiral commandant de la flotte à Trafalgar, et qui a perdu, évidemment, contre Nelson, et qui a été ensuite emprisonné, qui est mort d'une mort un peu particulière, suspecte d'ailleurs, puisqu'il a été soi-disant... il se serait soi-disant suicidé, ce qui n'est pas sûr du tout. Donc il y a encore des énigmes aussi, enfin il y a encore une énigme autour de cette histoire. Donc à Valensole, il y a des personnages intéressants, il y a Saint-Mailleul bien sûr, même si il n'a pas beaucoup vécu à Valensole.
Il a vécu 10 ans, non ? Il est parti à 10
oui,
ans.
Il est parti
ans,
à 10 ans, hein, ça, il est parti au Prytanée de la Flèche qui existait donc de Villeneuve. Sylvestre, Pierre-Charles Sylvestre de Villeneuve aussi, dont on voit la maison, une des maisons, enfin sa famille avait une maison, voire deux d'ailleurs, hein, en ville. Ouais. Hein. Et puis il y a le fameux clos de Villeneuve aussi, qui se trouve en bas, sur la route de Gréoux, là, que l'on voit bien. Voilà, donc il y a plein de choses, à dire, à raconter. Et on a encore exploré, parce que comme je le disais, il y a encore des énigmes.
Ça va demander une suite.
Effectivement, il y a, dans la tête, il y a des idées, mais bon, de là, on est plus très jeune. Et...
Ouais. Mais ce que dit Jean-Jacques sur les deux Villeneuve, ouais. Ça a une incidence directe sur, ouais. Y compris, je faisais référence aux grosses têtes, ouais. À cette histoire des grosses têtes. Les Valensole, c'est des grosses têtes. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des grandes familles nobles, des nobles terriens. Hein, et le fait que le frère de Sylvestre de Villeneuve, Jean-Baptiste, devienne un curé constitutionnel, puis évêque de Digne constitutionnel, a permis à ces familles nobles de conserver toute leur propriété. Ils n'ont pas été exclus de leur propriété à la Révolution. Et du coup, tout ça a perduré jusqu'au XXe siècle, puisque entre les deux guerres, il y avait encore des grands propriétaires fonciers, nobles, qui par la suite ont vendu souvent leurs terres à de grands bourgeois aixois ou des armateurs marseillais. C'est ça, hein, l'histoire de Valensole. Et ce qui explique qu'il est resté très longtemps une petite paysannerie, des ouvriers agricoles en grand nombre, et donc un fonds de revendication qui s'est retrouvé en particulier, par exemple, en 1936, qui s'est retrouvé durant la Résistance. Bon, voilà. Il y a donc ce fonds historique qui... Il y a des liens intéressants qui sont faits. Voilà, je ferme la parenthèse, mais c'est très important de comprendre ça. Et c'est une originalité.
Est-ce que vous auriez envie d'en lire un extrait à deux voix ou...
À deux voix.
Moi, je peux reprendre un truc du morceau Arnaud, bref.
Si tu veux.
Et toi, tu prends un truc un peu autre.
D'accord.
Alors, si oui. Valensole m'était compté.
Ben, je peux commencer par exemple avec... on parlait tout à l'heure de l'abjuration des chenilles. Alors, il s'agit d'une période d'ailleurs très, très, très difficile pour Valensole, début du XVIIIe siècle. Et il y avait eu effectivement une invasion de chenilles. Et donc, la solution à cette époque-là, hein, c'était évidemment de se tourner vers le ciel et puis de prier la Vierge, etc. etc. Donc, le prêtre, le curé, ainsi que la population, les consuls, étaient pour, effectivement, organiser une procession à Notre-Dame-des-Blaches, une chapelle qui n'existe plus. Mais les moines n'étaient pas d'accord du tout avec cette idée-là. Ils y voyaient, évidemment... plus de la bondieuserie ou ce genre de choses que vraiment une piété réelle. Donc ce groupe de Valensole qui est donc à l'extérieur de l'église et ils viennent voir donc les moines parce qu'ils voudraient accéder dans l'église pour pouvoir, disons, prendre une croix, enfin prendre des choses de toute façon à organiser leur procession. Et les moines, évidemment, s'y opposent et ça donne ça. Alors vous avez Renoir qui est le premier consul, hein, qui dit « Monsieur le curé, la population est désespérée et n'aura de cesse de manifester son mécontentement si on n'autorise pas cette manifestation. » Monsieur Boeuf, c'est le curé. « Oui, je sais, monsieur le consul, je vous comprends, on ne peut plus attendre. Essayons encore une fois. Tenez, je vois là-bas frère Ferraud, c'est le moine préposé aux sonneries des cloches et aux ornements. Frère Ferraud, voulez-vous faire sonner les cloches pour avertir la population et veuillez également préparer la chape violette et la grande croix. Frère Ferraud, je suis désolé, monsieur le curé, mais je ne puis accéder à votre demande sans l'autorisation du prieur qui, malheureusement, n'est pas là aujourd'hui. Mais voyez plutôt avec frère Aymar, le sacristain en titre. Le voici, justement, frère Aymar. Vous nous mettez dans un grand embarras, monsieur le consul. On m'a donné l'ordre de refuser l'accès au clocher et de ne pas vous remettre les documents, les ornements, pardon. Je ne puis rien pour vous de ce côté-là. Cela dit, il y a peut-être un moyen. Dites alors, il y a urgence. Eh bien, si vous êtes d'accord, monsieur le curé, le prieur, et donc Grégoire, ne s'oppose pas à ce que vous avertissiez vous-même la population. Et comment le ferais-je ? Tenez, voici une clochette que vous sonnerez en faisant le tour du village, et une étole que vous porterez sur votre surplis. Et par ailleurs, le prieur vous impose deux conditions. Vous vous rendrez à la chapelle Sainte-Anne et non à Notre-Dame-des-Blaches. Ne me demandez pas pourquoi et ne comptez pas non plus sur la présence des sœurs religieuses parmi vos rangs. Renoir. Bon, puisqu'il en est ainsi, je ne vous remercie pas. Et je vous prie de communiquer à votre prieur la plainte suivante que maître Léotard, notaire, ici présent, va vous lire sur le champ avant de la remettre à l'officier de justice. Monsieur Léotard. Attendu que la manière d'agir des sieurs bénédictins a causé parmi le peuple grand murmure et beaucoup d'escandales, et comme tant par la réponse du dit sacristain que par les dits et les jactances de Don Grégoire, que c'est ainsi une suite de l'abandon du service paroissial auquel ses prédécesseurs avaient toujours été attachés, nous avons jugé, étant donné le grand préjudice subi par la population, qu'il était de notre devoir de ne pas nous tenir au silence, de peur d'être accusés de connivence avec les entreprises des dix sieurs religieux et de fermer les yeux sur leur abandon du service divin. Et pour ce, avons dressé notre présent procès-verbal et décidé de nous pourvoir en justice et l'avons fait attester par les sous-signés messieurs Renoir, maire consul, Dezin, avocat et Léotard, notaire royal au dit Valensole le 27e d'avril de la présente année 1712.
Mais vous avez les talents d'un comédien, Jean-Jacques Corr.
Merci. C'est vrai que c'est... En fait, là, par exemple, la dernière tirade, je l'ai prise pratiquement, moi je l'ai un petit peu adaptée, ouais. Parce que bon, c'est un français ancien. Donc je l'ai adapté, mais c'est vrai que
c'est réaliste
et c'est voilà, ça donne une idée un petit peu quand même de l'opposition, des conflits qu'il y avait entre les bénédictins et puis il y avait d'autres sujets de conflit. Il y avait la toiture qui fuyait tout le temps qu'on ne réparait pas. Il y avait les fortifications qu'on ne réparait pas. Enfin bref,
sans arrêt.
Donc les archives sont pleines de ce genre de situations, bien sûr.
Alors, bah, moi, j'ai choisi parmi les quatre tableaux que j'ai écrits, le premier, c'est qui met en scène Marceau Arnaud, donc le héros de mon premier roman. C'est Valensole, printemps 1914. Et puis, il y a deux extraterrestres qui sont là, puisqu'ils viennent de temps en temps. L'aéronef se pose une nouvelle fois dans les environs de Valensole, pas très loin du champ, où il sera vu bien plus tard, c'est-à-dire près de l'Olivol, ce qu'on appelle l'Olivol. Et le 1er juillet 1965, il sera vu. Et HV1 et HV2, c'est-à-dire homme vert 1, homme vert 2, sortent de l'appareil. Alors HV2 dit « Bon, il fait frais ce matin, ce n'est pas le printemps ici. » HV1 « Ben oui, nous sommes au mois de mai. Le compteur de temps terrestre indique lundi 11 mai 1914, très précisément. » Je précise que le 11 mai 1914, il faisait effectivement du mistral. Hein. HV2, après un regard circulaire aux alentours, « Tu aurais pu choisir un endroit plus abrité. Et où sommes-nous exactement ?» HV1. Bah, « Nous allons le savoir. Regarde, un jeune paysan vient vers nous. » Marceau. Il s'agit de Marceau Arnaud. « Bonjour, messieurs. » Le jeune homme ôte sa casquette de façon fort civile. « Je me présente Marceau Arnaud. À qui ai-je l'honneur ? Vous êtes étranger ?» HV1. « Oui, oui, enfin. Ce serait trop long à vous expliquer. Vous partez travailler ?» Marceau, oui, je vais rogner ma vigne. HV2, vous allez rogner. Il écarte les yeux en signe d'incompréhension. Marceau sourit et reprend. Et s'y met plus précisément. Vous savez, on coupe certains bouts de rameaux au printemps. Sans ça, la vigne devient trop touffue et les grappes ne grossissent pas. HV1, mais dans quel quartier sommes-nous ? Marceau, la groupe attacière, comme vous le voyez, il écarte les bras, c'est le quartier des vignes. Ici, beaucoup de paysans font leur vin. Sous nos maisons, dans les caves, il y a presque toujours une cave à vin, etc., etc. Et effectivement, ce que j'ai dit au passage est vrai. C'était le quartier des vignes. Et dans toutes les maisons valensolaises, historiquement, lorsqu'on va dans les caves, eh bien, il y a la cuve à vin qui est carrelée avec des carreaux rouges émaillés. Et ça faisait une piquette à 8, 9 degrés selon les années. Et puis cette piquette a été bue par tout le monde qui trouvait ce vin excellent, alors que c'était une affreuse piquette la plupart du temps. Voilà.
Il paraît que le vin de Ries était meilleur, effectivement. La groupe attacière, tu pourrais en dire un mot aussi. puisque je crois que c'était là qu'il y a eu le fameux crime. C'est pas ça ?
Non, c'est le crime est plus loin. Le crime est, à la ferme du Courelis.
À Courelis, oui.
À Valensole ?
Oui, c'est le crime de 1928 où il y a eu une famille, le père, la mère, deux enfants, plus le domestique, l'ouvrier agricole, qui ont été tués par deux malfaiteurs. Et ben, au passage, donc c'était deux jeunes malfaiteurs. L'un était mineur, l'autre, Huguetto, était majeur. Enfin, en tout cas, une majorité pénale, on va dire, puisqu'il avait, il avait un peu plus de 18 ans. Ils ont été retrouvés une semaine après par, tenez-vous bien, le père, par l'inspecteur Sebeil, le père du commissaire Sebeil qui mena l'enquête d'hominicide. Vous voyez, il y a des choses étonnantes, on pourrait écrire à Jean-Jacques. Et donc, ce fameux Huguetto a été jugé à Digne et a été exécuté en place publique de Digne, derrière la cathédrale. Alors, je ne sais pas quel jour, mais je sais que c'était en janvier 1930. Et ça a été le dernier décapité en place publique à Digne. Voilà. Vous voyez, c'était là aussi, on rejoint. Je vous dis, Valensole, on peut faire beaucoup de. D'ailleurs, Pierre Magnan s'en est inspiré pour écrire La Maison assassinée.
Ah oui, d'accord.
Jacques, évidemment, a été le collègue idéal pour ce genre de projet, puisque bon, c'est un petit peu le régional de l'étape. Hein, vous avez entendu que je n'ai pas du tout l'accent du Midi. et donc, effectivement, bon, avec ses recherches et puis le fait qu'il ait vécu longtemps dans cette région, il connaît un petit peu tout ça, bien mieux que moi. Voilà.
Donc ce sont que des histoires vraies de Valensole
arrangées de façon
humoristique.
Oui, tout à l'heure vous me demandiez un petit peu les différents moments. Donc je viens de parler de l'abjuration des chenilles. Là. Bon, pendant la Révolution, évidemment, j'ai imaginé des réunions, des comités de salut public.
Ou de salut public.
Et puis aussi, pendant les épisodes de peste aussi, il y avait des comités d'hygiène, etc., qui sont réunissés. Donc j'ai imaginé comme ça des réunions où on prenait des décisions pour faire en sorte que la peste ne se propage pas. Donc là, c'était plutôt au XVIIe, XVIIIe siècle. Après, XIXe siècle, j'ai parlé des écoles. Voilà. Et puis après, la Révolution, ça occupe quand même pas mal de choses. Hein. Le comité de surveillance, voilà, c'est ce dont je voulais parler tout à l'heure. J'ai même imaginé quelques scènes où le comité de surveillance, devant le comité de surveillance, paraissent certains citoyens qui ont été dénoncés, ouais, ce genre de choses. Voilà. Et puis, donc, ça permet de donner un petit peu une idée du climat et de l'ambiance pendant la Révolution, et puis aussi la façon dont la Révolution a évolué à Valensole, comme souvent d'ailleurs, hein, où les choses ont commencé à se dégrader à partir de 92. Hein, voilà. Et puis ensuite, donc, comme je disais, les écoles au XVIIIe siècle. Et puis après, eh bien, j'ai passé la main à Jacques donc, pour les trois derniers chapitres qui portent sur un petit peu le Valensole moderne, enfin, d'une certaine manière, disons, l'évolution de Valensole au XXe siècle. Et puis on a terminé avec une petite scène où nos extraterrestres retournent dans leur galaxie. Voilà, voilà.
Jusqu'à la prochaine visite.
Ce qui nous permet d'ailleurs, puisqu'on est là aujourd'hui, de souligner que l'année prochaine, ce sera le 60e anniversaire. Voilà.
Qui est une histoire insolite.
Le 60e anniversaire, pardon,
L'apparition, si on peut dire ainsi, hein, des extraterrestres à Valensole.
Déjà,
60 ans. Et d'ailleurs, on parlait de mémoire vivante tout à l'heure, l'association qui va faire quelque chose, va vraiment marquer le coup. Hein. Bon, tous les ans, il y a une petite exposition, bien sûr. Mmh. Mais là, l'année prochaine, ils pensent faire quelque chose d'un peu plus, grand pour marquer le coup. Quoi. Voilà. Voilà.
Eh bien, c'est passionnant tout ça. vous avez eu des retours, j'imagine, des Valensolais.
Pas trop encore. Pas vraiment.
Il aurait fallu
peut-être qu'effectivement la pièce se soit jouée plusieurs fois, mais c'était impossible. Mm-hmm.
Disons que c'est compliqué parce que les gens, vous avez les gens passionnés ou intéressés, hein, qui dans un premier temps arrivent. Vous savez, c'est toujours la courbe de Gauss, en fait. Hein, où que l'on se trouve en mathématiques, comme en sociologie ou en culture, etc. Au départ, il y a un petit nombre de gens intéressés, puis ça monte. Et puis, il y a des irréductibles qu'on ne touchera jamais. Voilà, c'est comme ça. Bon, je pense qu'on est dans une phase ascendante. Enfin, je fais l'hypothèse optimiste que nous sommes encore dans la phase ascendante. On a quelques indications qui montrent quand même que les gens s'intéressent, qu'il y a des retours, que tout ça, ça ne donne pas rien. Mais c'est aussi nouveau que les gens s'intéressent à leur patrimoine. C'est relativement nouveau.
Ah oui.
C'est parce que peut-être on est à la retraite et qu'on a un imaginaire, je ne sais pas, peut-être pas surdimensionné, mais qu'on pense que la perception des faits historiques et de ce qui reste de l'histoire fascine les gens. Pas forcément. Mmh. Parce que d'abord, on n'est pas dans une phase globalement, nationalement ou même internationalement, où on s'occupe beaucoup de l'histoire. Hein. On est technologiquement dans une phase du présent. Le présent immédiat vécu comme réel, quoi, comme la réalité, qui n'est pas une réalité d'ailleurs, qui est une réalité subjective vue à travers des médias. Enfin, on pourrait faire quasiment une émission philosophico-culturelle ou je sais pas quoi. Mais voilà, donc on est, en même temps, on a conscience que la dimension patrimoniale, le questionnement sur d'où on vient, quelque part, ça ne peut qu'intéresser les gens, plus ou moins. Mais parce que ce vide-là, du coup, il est sidéral, hein, il existe, on le sait. Et je pense que... et puis, c'est perpétué un peu cet énorme travail, encore une fois, que John Windsor a fait, donc, ouais. Que je ne connaissais pas forcément, que Jean-Jacques connaissait mieux que moi, et dont je me suis rendu compte. J'étais estomaqué quand je suis rentré chez lui, je peux le dire, hein, avec l'autorisation de ses descendants. Ouais. Quand tu m'as dit, bah, viens un peu m'aider, quoi. Hein, ouais. Voir la quantité de travail qu'il y avait chez ce couple d'universitaires, quoi. C'est quand même, il faut le signaler, c'est unique. Ce sont des choses qui sont exceptionnelles. C'est vraiment de l'exceptionnel. Donc, si on ne fait rien avec l'exceptionnel, voilà, on loupe quelque chose, quoi. Bon, il se trouve qu'on a un peu de temps. On n'est pas encore tout à fait gâteux pour ne pas le faire. Donc, voilà, on le fait.
Deux choses. En parlant des archives en particulier, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi... il a une collection de microfilms.
Ah oui, oui.
Qui n'a
ah
pas
oui.
encore été exploité. Il y a ah des oui. microfilms qu'il a fait.
Enfin, c'est incroyable.
Il avait tout le matériel chez lui pour pouvoir mettre sur microfilm les archives, etc. Voilà. Voilà. Et d'autre part, bon, pour, disons... rebondir sur ce que vient de dire Jacques. Effectivement, on travaille. Il y a eu là, évidemment, ce qu'on a fait pour le parcours historique, hein, puisque donc, d'ici quelques temps, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus finalisé,
structuré,
voilà.
Y compris esthétiquement avec les panneaux.
Esthétiquement oui. avec les panneaux, puisque pour l'instant, c'est un petit peu encore sous forme de petites affichettes, etc., avec des QR codes. Mais bon, voilà, ce sera bien finalisé, je pense, d'ici la fin de l'année. Et puis, il y a la fête du patrimoine là, qui pour laquelle on a décidé, effectivement, puisque tout à l'heure vous disiez, enfin on en avait parlé, on n'a joué qu'une fois, et effectivement certains acteurs disaient que c'était dommage de ne pas pouvoir continuer l'aventure, et il y avait cette idée-là qui était dans l'air, peut-être de trouver un moyen un jour ou l'autre de continuer un petit peu l'histoire. Et donc l'année dernière, l'idée m'est venue, je ne sais plus, je crois que j'étais à Sisteron à la fête du patrimoine, où ils avaient fait quelque chose d'un petit peu, bon, un petit peu qui ressemble un petit peu à ce qu'on voudrait faire. Donc je m'étais dit, tiens, on pourrait peut-être essayer de faire une visite du village lors de la fête du patrimoine, théâtralisée, c'est-à-dire avec des scènes comme celle que je viens de vous lire là, quelques scènes qui seraient jouées in situ, voilà. Donc voilà, c'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler, hein, puisque on a déjà eu une première répétition, on a repéré, etc., et avec l'équipe effectivement de Valenciennes, la troupe de théâtre, on prépare ça donc pour le 21 septembre, voilà.
Samedi 21 septembre, donc ouais. À Valençon,
à
bien
heures.
Sûr, à 10h.
Devant la Grande Fontaine.
D'accord.
Voilà. Mm-hmm.
Et quand vous avez écrit, enfin oui. commencé l'écriture, vous aviez, puisque c'est beaucoup avec des dialogues, vous aviez oui. l'idée de pièces de théâtre.
Oui, oui, voilà, oui, j'avais pas envie d'écrire. Non, c'était sous cette forme-là, ouais. oui. En fait, je voulais écrire effectivement pour les 40 ans, là, donc mm-hmm. je voulais que ça soit quelque chose de. Voilà,
Et c'est bien vivant comme
et
ça.
Et c'est bien vivant comme ça, voilà. C'est ça, ouais. ça, voilà, c'est une autre approche. Et,
est-ce que ça peut donner encore l'idée pour en faire une BD aussi
Ah. Il faudrait s'adresser à Gérard Moine. Hein. Voilà. Je ne sais pas si Gérard est.
Alors Gérard a commencé, effectivement, puisque ouais. Gérard a déjà illustré un livre de. Donc le livre de.
Sur Marceau Arnaud. Sur Marceau Arnaud. Vous étiez paysan.
Dont,
il voilà. a fait la BD.
Donc il a Gérard fait la BD. Moine, hein. Et effectivement, je lui ai donc passé le livre et puis il m'a dit mais je peux faire quelque chose de formidable là-dessus.
Eh ben,
et il s'est lancé là-dedans et il a fait déjà les deux premiers chapitres. Il a déjà illustré les deux premiers chapitres.
Ah, donc c'est.
Donc c'est parti, c'est en route. Alors je ne sais pas s'il va avoir le temps de finir pour l'année prochaine, mais ce serait l'idéal, ce serait qu'effectivement ça soit terminé pour le 60e anniversaire l'année prochaine. Ça va être un peu juste. Ouais. En attendant, j'ai fait une version anglaise, j'ai fait une traduction anglaise de Si Valensole m'était compté, que j'ai quand même fait relire par une amie anglaise. Mais donc j'ai travaillé cet hiver, c'est ce sur quoi j'ai travaillé. Voilà.
Ça va pouvoir intéresser ça va être, évidemment les touristes aussi.
Voilà. Et éventuellement, il y a quelqu'un effectivement auquel je pense pour faire une version italienne. Enfin, on verra. Mais bon, comme je l'ai constaté lors de la dernière fête de la lavande, puisque Jacques parlait de visite, j'ai assuré une visite du village en anglais ce jour-là.
Bien, ouais.
La plupart des touristes qui suivaient la visite étaient des Allemands, des Hollandais, des Italiens qui parlaient tous anglais. J'avais aucun anglais.
Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup.
Des étrangers qui parlaient anglais et donc qui ont suivi ma visite. Donc je pense que peut-être qu'effectivement, la version anglaise va peut-être répondre à, je dirais pas un besoin, hein, mais peut-être à une certaine curiosité.
Alors, juste une remarque par rapport à ça. Pendant la fête de la lavande, moi, je devais faire la visite en français. Je l'ai faite, d'ailleurs. Mmh. Et on est parti, c'est un peu comme dans le CID, vous savez. Nous sommes partis de l'office du tourisme 22 ou 23. Mmh. Et j'ai constaté que dans le village, il y avait plein de couples comme ça qui prenaient des photos, qui regardaient un petit peu, etc. Et qui se sont joints à nous au fur et à mesure. Et quand on est arrivé dans la cour du doyenné, près de l'église, nous étions à peu près 50. Quoi. Ouais, voilà, ouais. Donc par un vingt effort.
Ouais. voilà.
Jean-Jacques Corr et Jacques Beck, donc merci d'être venus dans notre studio.
Ben avec plaisir.
Merci à vous, Odile.
De Valensole et de votre livre. Mm-hmm. Donc, on peut retrouver.
Il en reste encore un ou deux exemplaires à la presse, à Valensole.
Oui.
Autrement, lors des.
Des festivités, ou peut-être en s'adressant à toi, non?
Oui. Il y en a au camping, je sais qu'il en reste aussi au camping. Enfin, bon, il y en a dans quelques endroits comme ça.
Voilà. Et à la librairie de Digne.
La librairie de Digne, non, on n'a pas. Ouais. Par contre, il y a effectivement Ariès, il y est, et à Gréoux.
D'accord.
Voilà. Mais effectivement, on pourrait éventuellement. Effectivement. D'ailleurs, on a besoin de le réimprimer parce qu'on arrive au bout.
Il n'y en a plus assez.
Voilà.
Vous l'aviez tiré en combien d'exemplaires?
On l'avait 300, tiré non en. Non, en 200.
En 200 exemplaires.
200 exemplaires. 200 exemplaires.
Ok.
Voilà.
Merci beaucoup. Et donc, je rappelle que pour ceux que ça intéresse, évidemment, on peut, à la journée du patrimoine, le samedi 21 septembre, vous retrouver sur les lieux avec la possibilité de voir quelques scénettes jouées par les comédiens
de Valenciennes.
D'accord. Merci beaucoup. Et
merci
puis à bientôt pour la suite.
À bientôt.
Merci, à bientôt.
Au revoir. Voilà, tout de suite, donc, l'occasion de faire une annonce pour un concert, Jean-Jacques Corr.
Oui, merci Odile. Oui, j'ai pensé peut-être que ce serait sympa aussi d'annoncer le prochain concert du groupe vocal cœur d'homme, les valets de cœur, dont certains membres d'ailleurs habitent Digne, qui va se produire donc à Marcoux, samedi prochain, à 18h30, si je me souviens bien. Vous verrez des affiches, de toute façon, dans Digne, il y aura des affiches, et je pense que ça va paraître aussi dans la presse. Voilà.
Samedi, celui-ci.
Celui-ci, donc, oui, oui. Oui, oui. Le 31. Je peux peut-être regarder ça rapidement. Mais non, j'ai éteint mon téléphone. Donc, voilà. Mais je crois que c'est 18h30. Voilà. Le lendemain, à l'église des Stoublons, à 17h30. Voilà.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Merci, Odile.